Marc !
Le gras, c'est la vie.
J'ai prévu de grossir un maximum en hommage à ta mère.
Marc !
À t'entendre, on pourrait croire que c'est facile.
Marc ! Marc !
C'est toujours illégal de pratiquer une autopsie sur quelqu'un de vivant.
Marc !
Oui, quoi ?
Je t'aime.
C'est encore trop tôt.
Ils ont pas de bras, les oiseaux. C'est affreux. J'ai toujours l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant. Ça n'a aucun sens.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Plateau Série, votre podcast Ouest France qui vous parle de nos coups de cœur sur les écrans. Aujourd'hui, nous allons donc parler de La Flamme, la série de Jonathan Cohen. Et évidemment, pour en parler comme à chaque fois, je serai accompagné d'Anaïs. Salut Anaïs, comment ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Bah écoute, super bien. Je suis très content de parler de cette série que j'adore et je suis d'autant plus content d'en parler avec toi que j'adore aussi. Voilà, c'est comme ça.
Oh, ça y est, on commence bien.
C'est réciproque. C'est La Flamme. La Flamme, justement, bah, comment on peut présenter cette série qui est quand même assez originale ?
Qui est très original même. Eh bien, écoute, La Flamme, c'est tout simplement une parodie des émissions type Bachelor, donc des émissions de rencontres, où on retrouve un personnage qui est un pur personnage de télé-réalité, donc qui n'est pas une grande flèche intellectuelle, hein, qui s'appelle Marc.
C'est le moins qu'on puisse
et
dire.
Qui va, voilà. Mais on l'aime beaucoup, c'est ça le truc. Marc qui est attendrissant, mais un petit peu limité, et qui va essayer de trouver l'amour dans une émission de rencontre. Et donc, il va avoir avec lui des prétendantes qui vont se présenter et il va essayer de trouver la bonne pour l'épouser et passer le reste de sa vie avec elle.
Alors, c'est une adaptation, voilà. Si je ne me trompe pas.
Tout à fait. C'est une adaptation d'un programme américain qui s'appelle Burning Love. Donc, c'est un peu c'est un remake d'une parodie. Donc, c'est un peu particulier comme format. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir vu l'original. Il y a assez peu de gens au départ qui savaient que c'était une adaptation. Mais il n'empêche que même si c'est adapté, moi j'ai trouvé que c'était du pur Jonathan Cohen. Et c'est totalement adapté au côté français, au côté absurde qu'il y a souvent chez Jonathan Cohen. Et moi aussi, j'ai adoré en tout cas.
L'adaptation, de toute façon, elle transparaît pas trop. Tu parles de parodie d'émissions de rencontres type Bachelor. Moi, je dirais que c'est presque... Enfin, il y a le côté parodique, évidemment, mais il y a presque un pastiche, en fait, dans le sens où, par moments, t'as vraiment l'impression de regarder une émission de rencontres qui se passe mal, certes, parce que ça part dans tous les sens, mais ils ont copié le principe d'une telle manière que c'est hyper crédible.
Ah oui.
Et je trouve ça fou. Enfin, tu retrouves tout. Déjà, le premier épisode, les portraits. Le principe des portraits que tu retrouves, alors ultra décalé bien sûr, mais t'as aussi les séquences des épreuves, des choses comme ça, et je trouve que c'est super bien fait. Et déjà, le premier truc qu'on peut dire, c'est que c'est grâce aussi à la présentation. Donc là, le présentateur est incarné par Vincent De Dienne, et je trouve qu'il fait un travail incroyable. Je ne comprends pas qu'il soit pas animateur télé d'ailleurs, en plus d'être, d'être comédien, parce que franchement, on y croit à mort. Il a le phrasé.
Après, tu le dis, c'est des comédiens, donc c'est à dire qu'ils ont, je sais pas s'ils ont beaucoup regardé ces émissions-là, mais en tout cas, s'il s'en est pas imprégné depuis très longtemps, c'est une super performance. Parce que comme tu le dis, il le fait à la perfection, quoi.
Ah ben, tu retrouves le phrasé, la façon de s'adresser aux autres personnes, et puis même la façon de réagir avec Jonathan Cohen. Je trouve que c'est un duo qui marche hyper bien. D'ailleurs, Marc et l'animateur. Je crois qu'il a pas de, nom, je crois, le présentateur d'ailleurs.
Non, je crois pas, ou alors on s'en souvient pas trop, mais ce que j'adore, c'est qu'en plus il est là, tu sais, il est un peu tout le temps là, même quand on ne l'attend pas, il est là, comme ça il débarque, Vincent De Dienne, il est génial, et puis comme tu dis, il y a une super bonne interaction avec le personnage de Marc et le personnage de Jonathan Cohen, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'impro entre les deux pendant le tournage de la première saison, ça c'est sûr, et ça se ressent parfois, parce que tu sens que les deux, ils sont un petit peu sur le bord, ils ont envie de rire, ils se regardent, ils rigolent, voilà, ça c'est un petit peu hors champ, mais c'est d'ailleurs aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans La Flamme, c'est qu'il a gardé quand même, Jonathan Cohen, au montage, des moments où tu vois très bien des gens derrière exploser de rire, en fait. Et c'est quand même, et ça rajoute, je trouve, au délire général où il s'est dit, allez, on se prend pas la tête, on fait un truc nickel, on fait une super parodie ou un super pastiche, comme tu disais, mais en même temps, on est là pour se marrer et on y va à fond. Et ils y sont allés à fond.
Et ça, tu le remarques dès le début avec la séquence des portraits. Donc, tu te rends compte, en fait, que Vincent De Dienne, donc l'animateur, est le seul personnage, on va dire, réel, cohérent en tout cas, qui a l'air ouais. à peu près normal par rapport à tous les autres qui sont complètement décalés, voire complètement fous. Et ça, tu le vois dès la séquence des portraits. Donc, il y a une douzaine en fait de prétendantes et chacune va être traitée un petit peu différemment, avec un trait de caractère un petit peu spécial. Je pense qu'on a tous un petit peu nos préférés et nos détestés, mais s'il y en a bien une qui nous a marqué, c'est Leila Bekhti, qui incarne du coup Alexandra, donc la juriste. Et dès son portrait, moi j'étais plié. Tu vois qu'elle a fait une espèce, tu sais, les tableaux d'enquête là où elle relie tous les éléments sur Marc.
La vie de Marc. Ouais.
Mais c'est fou.
Mais elle, c'est sûr, c'est exceptionnel. Elle est à mourir de rire et elle prend évidemment sa part de plus en plus loin au fur et à mesure des épisodes. Mais c'est vrai que chez elle, je trouve que tu sens tout de suite le gros potentiel. Et d'ailleurs, je pense que c'est certainement le personnage que le public a préféré, quoi. C'est souvent celui qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, qui est devenu un gif, un mème, voilà, où on la voit crier « Marc ! Marc ! Je suis là !»
Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'aime. Ah non, mais le personnage est incroyable. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est pas un rôle... Leila Bekhti a souvent des personnages forts en gueule, mais jamais sur ce côté un peu inquiétant, voire psychopathe, on peut le dire. Et je trouve qu'elle s'en sort, mais de manière assez incroyable. Et par moments, tu parlais des séquences justement où il conserve les fous rires. On peut voir dans Les Bêtisiers qu'elle fait casser les gens plein de fois elle fait se marrer les gens un nombre de fois incroyable parce qu'elle garde son sérieux, elle est dans son personnage, elle est à fond et elle est presque flippante et tu vois que tout le monde en peut plus quoi avec les séquences.
Puis en plus,
c'est incroyable.
Elle s'amuse et en fait ça se voit qu'elle s'amuse parce que elle continue, même elle personnellement, Leila Bekhti, aujourd'hui sur les réseaux sociaux notamment, elle continue de rebondir régulièrement avec des répliques de la flamme, etc. Elle sait que ça a marché, que les gens ont aimé son personnage et elle y va à fond. Et tu disais qu'elle était un petit peu à contre-emploi et c'est pas la seule. Moi, c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans les prétendantes qui ont été présentées, c'est qu'il y en a que t'attendais pas spécialement sur ce registre, notamment Adèle Exarchopoulos.
Ah ouais. Ouais, c'est fou.
Qui d'habitude, avant, en tout cas, La Flamme était habituée à des rôles plutôt dramatiques, et là, qui s'est lâchée, qui est en train de. Donc, elle a un personnage, pour ceux qui n'ont pas vu la série, qui a un cœur de singe. Elle a été greffée avec un cœur de singe, donc elle passe la moitié des épisodes à faire ouh 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 comme ça, et donc qui donne lieu à des moments un petit peu suspendus et des gros quiproquos. Et c'est juste, mais c'est super drôle. Et elle, tu la vois aussi se marrer très régulièrement en arrière-plan, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que il y avait certaines personnes qu'on n'attendait pas sur ce registre-là et qui y sont allées à fond, qui se sont lâchées complètement, et avec la dynamique de groupe, ça fait un truc mais vraiment parfait, quoi.
Alors, pour expliquer un petit peu avec les ou, parce que je trouve ça hilarant, mais c'est bête, mais c'est vraiment à l'image de tout l'humour de la série.
Oui.
C'est qu'en fait, Marc croit qu'elle demande ou à chaque fois, comme une question, quoi, ou. Et du coup, elle fait un petit ou comme ça, et il dit, dans la maison, dans la cuisine.
Il
répond, voilà, il répond des trucs au premier degré, et c'est ça vraiment son personnage. Tu disais qu'il était un petit peu limité, il est très limité, mais il est très premier degré.
Oui, c'est ça.
Et il comprend plein de trucs à côté, mais du coup ça donne plein de jeux de mots. Et je trouve d'ailleurs que ce qui est bien dans cette série, et enfin, ce qui marche beaucoup, je trouve que l'humour réside beaucoup sur les répliques plus que sur les situations. C'est-à-dire que tu vas avoir des situations, typiquement des sorties, où il va voir avec une fille, on va aller dans un restaurant, on va faire ceci, on va aller au bowling, etc. Et je trouve que l'humour de situation fonctionne un petit peu moins que l'humour des répliques, surtout, parce que les personnages sont tellement caractérisés, sont tellement caricaturaux, que c'est ça qui fonctionne, en fait. C'est vraiment l'écriture, voire l'impro, des réactions qui sont assez incroyables.
Après, c'est le mélange des deux, parce que comme tu dis, l'écriture, elle est hyper importante. Tu vois, moi, rien que le fait qu'il y ait un personnage comme Châtaléré qui existe, je trouve ça exceptionnellement drôle. C'est-à-dire qu'il a quand même écrit un personnage où il s'est dit « la fille va être pixelisée pendant tous les épisodes parce qu'elle va s'appeler Châtaléré et on va pixeliser toute sa partie avec de pubis parce qu'elle n'a pas de culotte, en fait, et qu'elle s'appelle Châtaléré. » Et je trouve que rien que l'idée que ce personnage existe, c'est vraiment... Ça, c'est une écriture, c'est du génie, quoi.
Incarné
par...
C'est
hyper bien utilisé.
Incarné par Camille Chamou, exactement.
Oh là là.
Alors, c'est marrant que tu parles de... On va avancer un peu plus dans les personnages, justement, puisque t'en parles. Châtaléré fait pas partie de mes personnages préférés, personnellement. Enfin, je distinguerais deux types de personnages. personnages en fait. Pour moi, il y a les personnages qui sont drôles en tant que personnages et qui ont vraiment un caractère hyper intéressant. Et pour moi, typiquement, bah, on a parlé d'Alexandra par Leila Bekti, mais l'autre que j'adore, c'est Valérie par Doria Tillier, que je trouve mais adorable. Alors Valérie, c'est la meuf qui vraiment est trop sensible, et dès qu'elle va voir Marc, voilà, elle se met à pleurer tout le temps, et puis et tu vois que c'est une pauvre victime, et le pire moment, et le point culminant, c'est vers la fin de la série, où on rencontre sa famille, qui est juste abominable avec elle, la famille Ange, où tout le monde s'appelle Ange, Marie-Ange, Marc-Ange, enfin, ils ont tous des noms avec Ange, et tu vois qu'elle s'appelle Valérie, et tu vois que c'est le souffre-douleur de la famille où tout le monde se moque d'elle et tout le monde est imblairable avec elle, et c'est hilarant, enfin j'adore ce personnage, et au contraire je trouve que Châtelet-Ray, le personnage en tant que tel n'est pas hyper intéressant, à part effectivement ce côté Châtelet-Ray.
C'est le concept, voilà, c'est le concept du personnage,
disons,
qui est drôle.
Une fois que tu l'as vu, ben, c'est le cas de le dire. voilà, tu connais le truc. En revanche, ça va susciter plein de réactions autour des personnages. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les personnages vont réagir, notamment un bon duo avec Châtelet-Ray, c'est Victoire, la fleuriste, qui est interprétée par Laure Calamy, et qui est un petit peu, on va dire, vieux jeu, et qui du coup n'apprécie pas du tout le côté très exubérant de Châtelet-Ray. Et du coup, ça marche mieux. Je trouve que c'est des personnages qui sont plus intéressants dans une dynamique qu'en tant que tel.
Mais je trouve d'ailleurs que tout le groupe fonctionne très bien ensemble. C'est-à-dire qu'après, d'ailleurs, moi je me souviens, puisque évidemment à chaque épisode il y a une élimination, ou une ou des éliminations de différentes prétendantes que Marc ne sélectionne pas. Et en fait, je me souviens que c'était aussi quelque chose qui me tenait dans la première saison, c'est de me dire, oh non, j'espère qu'il ne va pas virer telle ou telle personne, parce que j'avais envie de me dire, bah non, ce personnage-là, j'aime trop, ou alors une fois que lui ou elle est partie, c'est fini, quoi, c'était plus la même chose. Donc c'est vrai que c'est l'ensemble qui est hyper bien fichu. Et comme tu dis, il y a un mélange de personnages qui sont là pour servir un petit peu d'autres, mais qui sont nécessaires, en fait, à l'écriture totale de la saison et de la série, quoi.
Ah, mais ça fonctionne super bien, si bien que tu le regardes vraiment presque comme le Bachelor, en te disant, mais j'ai pas envie qu'elle soit éliminée, je veux qu'elle aille jusqu'au bout. C'est ça qui est drôle, c'est ça qui est hilarant.
Et même les personnages secondaires sont hyper bien travaillés, parce que t'as le personnage de José. Donc José, qui est un petit peu José, qui est l'homme à tout faire, qui débarque comme ça de temps en temps, lui aussi très régulièrement dans les épisodes, et à qui Marc s'adresse dans un espagnol incertain, on va dire, et qui donne lieu toujours à des répliques très drôles ou des situations très drôles. Et c'est juste des petits caméos, quoi, presque. Et même les caméos, parce qu'on a parlé des prétendantes qui, elles, sont là à chaque épisode, mais dans chaque épisode, tu as aussi des caméos masculins qui viennent de l'extérieur, qui apparaissent parfois pour une réplique ou deux, et qui sont aussi extrêmement drôles, et qui fonctionnent bien avec le reste du groupe.
Bah, et puis le casting aussi, on a déjà cité les noms, mais le casting est oufissime. Tu as les prétendantes, on a cité plein de noms au niveau des prétendantes, mais comme tu le dis, effectivement, les personnages secondaires, donc le précédent bachelor, donc le précédent candidat de La Flamme est incarné par Gilles Lellouch, il a remporté le jeu avec Laetitia Casta, et tu as aussi bien sûr le docteur Bruno Juif. Le docteur Juif incarné par Pierre Ninet, t'as Aurel San qui joue un personnage, t'as Ramzi Bedia, t'as Olivier de KDO, t'as Marina Rollman, enfin il y a Gilbert Melki, François Civil, enfin le casting est vraiment incroyable, et souvent dans des rôles à contre-emploi, pardon, si j'arrive à le dire, et c'est assez marrant, par exemple Laetitia Casta en Peste, c'était assez inattendu, elle qui est plutôt sur des rôles assez doux, tout ça, et tu sentais vraiment une volonté, je pense, de Jonathan Cohen de dire, bah tiens, on connaît cet acteur ou cette actrice dans ce rôle-ci, donc, on va lui faire faire exactement le contraire. Et je trouve que ça fonctionne super bien.
Ouais, oui. Et après, et à l'inverse, parfois, il appuie sur des leviers qu'on adore. Par exemple, tu parlais de Olivier, de KDO, qui joue un rôle complètement absurde, qui est le fils d'une des prétendantes, qui
c'est
est
ça,
la plus
Marie-Pierre
âgée.
C'est ça, Marie-Pierre Cazé, effectivement. Claude, la retraitée.
Qui est de loin la plus âgée. Et donc, et là, ça se retrouve vraiment, il se retrouve dans un rôle qui est complètement absurde, mais qui lui correspond à 1000%. Enfin, moi, ça m'a rappelé la bonne époque de KD Olivier, quoi. C'était extrêmement drôle. Tu sais qu'il est là, lui aussi, il est sur la ligne, il a envie de rire. Il sait que son personnage est ridicule, mais il y va, il le joue à fond. Et lui, ça lui va comme un gant, quoi.
Est-ce qu'il y a des personnages que t'aimes un petit peu moins que les autres ?
Ouais, moi j'ai pas été fan spécialement de l'écriture de Ramsay, du personnage de Ramsay, donc Tony Tonic. Voilà. Après, encore une fois, c'est drôle d'avoir le personnage du prof de sport, un petit peu énervé et tout. Mais je trouve qu'il apportait un rythme différent qui fonctionnait pas spécialement avec le reste. Parce que lui était là à se plaindre parce que donc il a divorcé de sa femme, enfin sa femme l'a quitté, etc. Et je trouvais que c'était un petit peu à contre-courant du reste de l'émission. Et que dans le rythme, les passages où on le voyait lui, ça fonctionnait moins bien en fait avec les autres.
Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que dans l'écriture même des vannes, je trouve que c'était vite, ça tournait vite en rond sur le côté. Oh, je suis divorcé, ouais. Je suis triste, tout ça. Je vais perdre la garde de ma fille. C'était pas, tu retrouvais pas, je dirais, le côté créatif qu'il peut y avoir sur les autres personnages et le côté surprenant. C'était un perso qui était plutôt attendu en fait, je trouve. Mm. Mais sinon, je suis assez satisfait de l'ensemble des persos. Peut-être que Florence Foresti, qui joue donc l'aveugle, alors je sais plus son prénom, Émilie.
Ah, Émilie.
C'est ça, ouais, Émilie. Je trouve que le personnage aurait pu aller un petit peu plus loin. Alors, elle n'est pas restée longtemps, elle a fait que deux épisodes. Et je trouve que ça aurait
mérité. Mais c'était
drôle. Mais tu la retrouves un peu plus tard dans la série. Et c'est vrai que le fait de la revoir plus tard, je trouve ça... assez drôle.
À revoir, c'est le cas de le dire, parce qu'elle, elle ne voit pas, et du coup, ça donne lieu, voilà, là aussi, à des répliques et des moments qui sont mais magiques, quoi. Quand Marc essaye de prouver qu'elle voit, et qu'elle dit « Moi, je ne crois pas qu'Émilie soit non-voyante, je pense qu'elle est oui-voyante. » ça me fait toujours rire, tu vois. Je peux le voir 10 fois, ça me fait rire.
Et pareil, Céline Salette, donc, qui joue la SDF Manon,
oui.
Je trouvais là aussi que ça allait vite sur les vannes.
Mmh.
Au début ça fonctionne bien et tu vois que certains personnages n'ont pas été creusés alors que d'autres
effacés, ouais.
Encore une fois, enfin je vais revenir sur Alexandra, mais la scène finale où ils sont tous, enfin pas finale mais vers la fin de la série, où ils sont tous avec le docteur juif qui les invite en fait à parler, à extérioriser, et le personnage devient encore plus inquiétant et t'as l'impression que, enfin je sais même pas si les autres ils jouent ou pas ou s'ils sont vraiment choqués par ce qu'elle raconte, mais je sais pas,
ouais.
Le truc est tellement gros, quoi. Je suis vraiment hyper fan du personnage d'Alexandra, quoi. C'est
ah ouais, et c'est vrai que tu parlais du docteur juif, moi je m'étais concentrée sur les prétendantes, mais Pierre Ninet, vraiment, docteur juif, c'est un personnage qui est incroyable. Et en plus, tu le sens là aussi que... Et d'ailleurs, Jonathan Cohen l'a souvent répété dans les interviews, mais pour Pierre Ninet, c'était une récréation. Parce que lui aussi, c'est pareil, il est habitué à des rôles assez profonds, assez difficiles parfois, assez noirs, quoi. Et donc là, il arrive et il joue un mec qui s'appelle Docteur Juif et qui fait faire une thérapie d'imitation à Marc. Donc, il lui demande de jouer n'importe quoi pour extérioriser. Et c'est ridicule et tu sens bien que les deux sont partis en fou rire. Ça se voit, ça se sentait. Et après, tu as eu les bêtisiers qui sont sortis.
Ah oui, il faut les voir là.
Ouais, le bêtisier se déguste aussi bien que la série et tu vois bien effectivement que ça a été hyper dur pour eux de garder leur sérieux pendant ces moments qui étaient quasiment improvisés en fait. C'était quasi que de l'improvisation.
Après, Pierre Ninet, il est quand même assez versatile. Alors, c'est un acteur incroyable. Il est quand même habitué aussi des comédies, puisque sur Canal, il faisait les petits sketchs, je sais, avec le super-héros, là, je sais plus comment il s'appelait.
Oui, bah après, en fait, il a deux choses. Il est une partie très sketch, mais je veux dire, dans les films, dans les longs-métrages ou dans les gros projets qu'il avait, ont tendance à être un peu plus sérieux. Mais clairement, effectivement, ceux qui suivent sa carrière, et puis ne serait-ce que de le voir lui dans une émission comme Burger Quiz, par exemple,
oui,
on comprend très vite que le gars, il est très drôle, ça part aussi vite en cacahuète quand il est là. Et puis maintenant, il a fait sa vidéo avec McFly et Carlito, donc on sait qu'il va peut-être incarner réellement Feynman, donc ce super-héros d'un sketch qui est sorti de là. Donc c'est clair que Pierre Ninet en comique est exceptionnel.
Après, il est aussi à l'image de l'ensemble du casting, je trouve, où ils incarnent tous des personnages complètement barrés, mais avec un premier degré absolu, ce qui fait que ça renforce complètement la comédie, c'est-à-dire que tu te dis, ces gens sont complètement fous, mais comme ils sont fous tous ensemble, tous en même temps, tu te dis c'est une grande normalité. Et d'ailleurs, ce constat est encore plus mis en valeur dans Le Flambeau, on en parlera un peu plus tard. Mais dans Le Flambeau, effectivement, tu as une des deux équipes qui... Alors, je ne vais pas trop spoiler non plus parce que le Flambeau n'est pas encore sorti, donc on ne va pas encore trop en dire. Mais tu as un personnage qui est très normal et qui réfléchit normalement. Et typiquement, pour la première épreuve, il y a une énigme du genre... Il n'y a que quatre éléments, mais celui que vous cherchez est celui qui brûle, un truc comme ça, quoi, hyper bateau. Et donc ce personnage très cartésien répond le feu, et tout le monde lui dit ah, mais qu'est-ce que t'es maligne, t'es trop forte et tout. Et tu dis, mais c'est, et tu la vois en disant, mais c'est pas possible, ils sont tous débiles. Et je trouve que c'est, et ça fonctionne encore, encore mieux. On va revenir du coup sur la flamme. Est-ce qu'il y a un moment du scénario qui vraiment là c'était, tu t'es dit, c'est une des meilleures séries comiques, j'adore.
Alors, ça va faire très pipi caca, et pourtant je suis pas très fan. Tu sais déjà de quoi je vais parler.
Je le sais parce qu'on en parle tout le temps. On en parle tout le temps de ce passage.
Mais oui, parce que c'est extrêmement drôle. Mais moi, je suis pas très fan normalement de l'humour trop potache. Tu vois, souvent dans les comédies américaines, c'est ce que je reproche. Ouais. Ils tournent beaucoup autour du pipi caca, prout, vomi. Enfin, ça les fait marrer, mais ils ont que ça. Et là, ce que j'ai adoré dans La Flamme, c'est que t'as cette série qui monte en puissance à chaque épisode, c'est complètement barré, c'est absurde, etc. Et puis là, comme ça, sorti de nulle part, on parlait tout à l'heure du personnage d'Alexandra, et pendant une cérémonie de la rose, donc où Marc est censé décider de la prétendante avec qui il va continuer, tu as Alexandra qui sort comme ça, d'un coup, Marc, Valérie vient de péter, ça pue, il faut qu'elle parte. Et ça... Cette réplique-là m'a fait recracher l'eau que j'étais en train de boire à ce moment-là, parce que c'était vraiment, mais je m'y attendais pas du tout. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que tu ne l'entends pas, le paix. Il n'y a pas de paix. C'est juste que c'est Alexandra qui pète un câble envers cette pauvre Valérie, qui veut essayer de la virer parce que c'est une rivale. Et donc, elle sort cette histoire de paix, et t'as la pauvre Valérie qui se met à pleurer en disant « Mais moi, j'ai pas pété !» En fait,
Marc, je te le jure, je n'ai pas pété. Et en fait, tu vois, donc, Doria Tillier qui joue Valérie, et tu la vois qui rigole à moitié. Enfin, tu sens que la scène est difficile à tourner, parce que là aussi, tu vois dans les bêtisiers, ils n'arrêtent pas de se marrer à cause de cette scène.
Ah ouais.
Et je pense que c'est drôle. Je pense que justement, c'est drôle parce que c'est pas pipi caca, c'est la dynamique derrière. C'est-à-dire, c'est l'agressivité du personnage d'Alexandra qui va utiliser en fait cette feinte, et le côté à moitié je rigole parce que c'est absurde, et je pleure parce qu'on m'accuse d'un truc que j'ai pas fait. C'est ça qui rend le truc drôle en fait, c'est pas le blague du P,
oui.
C'est juste
Valérie
qui a pété et tout, et tu dis ça de manière hyper méchante, hyper sérieux, et t'imagines le truc dans la vraie vie, tu dis mais c'est pas possible d'être aussi agressif. Enfin, je trouve
c'est là où j'ai trouvé, encore une fois, l'écriture assez intelligente, quoi, bien faite, quoi, parce qu'il aurait pu s'arrêter à mettre juste un bruit de paix, et je ne dis pas que j'aurais pas rigolé. Ça m'aurait peut-être fait rigoler aussi d'avoir à ce moment-là le bruit du paix. Mais là, c'est pas ça qui est drôle, comme tu dis, c'est complètement autre chose, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez brillant. Et je me suis dit tout de suite, ah, mais ça va devenir culte. Il y a des moments comme ça, il y a plusieurs passages où tu te dis ça va rester. Ça, c'est sûr, ça reste, quoi.
Bah, il y a un passage qui est resté, bien évidemment, c'est la Jean-Guille.
Oui.
La Jean-Guille. Alors, j'adore ce passage parce que c'est. Alors, j'avoue que j'ai eu un mini doute. C'est ça qui est drôle, parce qu'en fait, tu te retrouves en fait au niveau de Marc. C'est-à-dire que tu vois tout le monde qui fête la Jean-Guille. Et lui, il connaît pas la Jean-Guille. Et du coup, nous, on est pareil, ça existe pas la Jean-Guille, tu vois. Donc t'es mis dans cette position de Marc, mais c'est ça, ouais. T'es tellement habitué que Marc soit idiot, tu te dis mince, est-ce qu'il y a un truc que je connais pas en fait qui existe vraiment, qui s'appelle vraiment la Jean-Guille. Je te jure que pendant deux secondes j'ai eu un doute en fait, parce que tous les autres personnages avaient l'air tellement sûrs d'eux-mêmes de fêter la Jean-Guille avec une histoire abracadabrante de il faut beurrer du pain, il faut pas applaudir entre midi et
17h45,
et après ça reprend, mais il fallait en même temps des costumes, enfin c'était un truc abracadabrantesque, pour paraphraser Jacques Chirac, et ça fonctionne super bien, et c'est resté, et je pense
mais
que
non
tout
seulement
le monde...
C'est la preuve que ça fonctionne super bien, c'est que moi je me souviens avoir cherché aussi sur Google la Jean-Guille et tout, et donc tu as vraiment dans les premières suggestions, t'as la question c'est quoi la Jean-Guille, donc les gens se demandent ce que c'est, quoi, tu vois. Après t'as quand est-ce qu'on fête la Jean-Guille, donc la date, pour essayer de savoir ça. Et après, une fois que la série est sortie, t'as eu des articles de presse, hein, mais de vrais quotidiens aussi sérieux que nous, n'est-ce pas, qui ont fait plein d'articles en mode aujourd'hui c'est la Jean-Guille, comment tu peux fêter la Jean-Guille, quelle est la chanson de la Jean-Guille, puisqu'il y a une chanson aussi, il y a un clip et une musique qui accompagnent le truc. Et donc le truc a pris une ampleur énorme, et je me souviens que l'année dernière, il y avait eu un événement Facebook énorme où on invitait les gens à fêter la Jean-Guille. Moi, j'avais participé au truc. Et il y avait vraiment des gens qui se sont déguisés. C'était une journée complète où les gens avaient dit oh, c'est bon, j'ai acheté ma baguette et mon beurre, je peux commencer la Jean-Guille. Il y en a qui étaient allés déguiser au bureau, qui avaient fait la chorégraphie, machin. Enfin, c'était génial. Le fait que ça dépasse comme ça le cadre d'une série aussi rapidement, je trouve que ça prouve, comme tu dis, l'intelligence de l'écriture et toujours ce côté sur la ligne, quoi. Est-ce que c'est une parodie? Est-ce que c'est un pastiche? Est-ce que c'est la réalité? On ne sait pas. Et ça fonctionne à merveille.
Je trouve que c'est ça l'image aussi de l'humour de Jonathan Cohen et de l'ensemble de la série, c'est que globalement, c'est quand même un humour qui est bienveillant, qui est pas ouais. trop moqueur, qui va plus se moquer de personnages exubérants et un peu spéciaux que véritablement être méchant. C'est pas un humour qui est vraiment méchant et ça que j'aime bien en fait. Et la Jean-Guille, c'est un truc complètement inoffensif et c'est super drôle en fait. Au final, rien que le nom Jean-Guille, tu te dis mais d'où est-ce que ça vient? C'est même pas un prénom, tu vois, ça peut être Jean-Guille, non, c'est Jean-Guille. Je comprends pas. C'était assez
mais
assez
oui
fou.
Mais c'est vrai que Marc a un petit côté, moi je pense toujours aussi à OSS 117, dans le sens où tu te moques du personnage, donc lui il peut dire un petit peu n'importe quoi. Ça pourrait être un humour qui pourrait être mal pris parce qu'il est quand même misogyne, enfin il dit des trucs qui sont très border, mais comme il est tellement stupide et que tu te moques de lui, ça passe sans aucun problème. Et ça aussi, c'est il faut pouvoir l'écrire correctement pour que ce soit assez assez impactant, quoi. Et ça, c'est très Jonathan Cohen, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans son humour en général.
Alors, comme je le disais, il y a quand même des passages que je trouve un petit peu plus avides. Je préfère vraiment les dynamiques entre les personnages que certaines épreuves, certains événements de la série. Je pense notamment, et c'est marrant parce qu'il y a Tony Tonic dedans et il joue un rôle assez important dans cet épisode. C'est pas du tout mon épisode préféré, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est le passage avec l'épreuve de sport en fait au final,
ouais.
où il y a Marina, Soraya, et je crois que c'est
Marina,
tout.
Géraldine Nakache aussi, excellente. Ouais. En lesbienne,
en kiné lesbienne cachée,
qui vient participer, qui fait croire qu'elle est prétendante pour Marc, mais en fait c'est pour se rapprocher des autres prétendantes et notamment de Soraya.
Soraya, exactement. Et là, du coup, je trouve tout ce passage sur les épreuves de sport avec tout le côté, voilà, Soraya a un cœur de singe et du coup elle est pas faite pour le sport et tout. Je trouve que ça plombe aussi un petit peu le rythme. Alors peut-être que c'est parce que le personnage de Ramsey qui est là, mais ou alors peut-être que ça m'évoquait d'horribles souvenirs de sport de collège, je n'en sais rien, je ne sais pas, c'est peut-être ça. Mais ouais, c'est pas un passage que j'ai trouvé hyper amusant. En général, vraiment, mes passages préférés, c'est là où tu as tous les personnages qui vont interagir. Est-ce que toi, il y a un passage peut-être qui t'a moins plu que les autres ?
Bah, c'est vrai que celui-là, c'était un peu pareil. Je ne l'ai pas trop apprécié. En fait, je me rends compte que j'aime moins les passages où ils sont à l'extérieur. Comme tu dis, quand ils ne sont plus trop dans leur dynamique de groupe à eux. Il y a quand même aussi un épisode qui reste drôle, hein, quand ils sont... d'ailleurs, ils croisent Vincent McCain. Ils sont dans une maison à retaper pour une association, etc. Ça, c'est pareil. En fait, le rythme, ça casse tout de suite le rythme.
Ouais.
Et c'est assez bizarre, ces moments-là, où tu te dis, oui, moi, j'attends que ça revienne vraiment au côté émission de dating et qu'on les retrouve dans la maison, etc., etc. Je préfère ces passages-là aussi, quoi.
Pourtant, tu vois, j'aime bien le côté aller jusqu'au bout, comique de répétition, et vraiment enfoncer le clou 10 fois. Il y a un passage que j'adore et qui se passe dans la maison et qui est uniquement sur la thématique du Marc veut quitter l'aventure. Et ça dure, mais ils épuisent le truc, ils tirent sur la corde de manière absolument incroyable et tu vois Marc qui fait des allers-retours avec la musique stressante et tout, et il rentre, il sort, il fait sa valise. Voilà, puis Valérie, elle laisse la porte ouverte, alors Marc il l'engueule parce que voilà, il faut faire attention et tout, au bilan carbone, je sais pas trop ce qu'il raconte et tout. Et puis la pauvre qui se met à chialer, évidemment, elle ferme la porte. Et puis après, il l'engueule parce qu'elle a laissé la porte fermée et tout ça. Et il n'arrête pas de faire des allers-retours. Et ça dure hyper longtemps. C'est hyper long comme passage.
Ouais,
et je trouve ça super bien, en fait. Alors que c'est pas un truc hyper élaboré, mais ça fonctionne très bien. Et c'est vrai que je trouve que parfois, en essayant d'aller un peu trop loin, je dirais, dans la mise en scène, ils perdent un petit peu le côté essentiel. Et ça donne des passages un peu moins marrant. Alors que des fois, il y a des trucs qui sont tout cons, qui sont hilarants, quoi. Et souvent, c'est dans l'écriture et dans les répliques. Au niveau de la fin, comment t'as trouvé la fin ?
Alors la fin, je t'avoue qu'en préparant le podcast, je me suis rendu compte que je m'en souvenais pas exactement, enfin pas parfaitement. Pour moi, la fin, alors ça veut dire qu'on peut spoiler.
Allez.
Là, on va en parler. Pour moi, la fin, c'était Marc, il est... parce qu'on n'a pas parlé du personnage de Anne. qui est le personnage...
On a réussi à ne pas parler d'Anne. La pauvre.
Puisque c'est dans ce qu'on appelle un running gag. Tu parlais du comique de répétition.
C'est ça.
Mais elle, cette pauvre prétendante qui est donc Anne, Marc la déteste. Mais depuis la première minute, c'est elle finalement qui est la prétendante la plus normale.
Ouais.
Et donc, je sais pas pourquoi, il la déteste, mais il la déteste et il essaye de la virer de la compétition depuis le début. Et puis finalement, ils se mettent ensemble dans les épisodes à la fin. Et donc on se dit, bah ça y est, ils ont trouvé, ils vont se mettre en couple, quoi. C'est bon pour tous les deux. Et donc, moi, j'avais retenu ça, qu'ils se mettaient en couple. Et j'avais oublié qu'à la toute fin, il y a le retour d'Orchidée, qui est quand même très drôle. En plus, j'avais vraiment rigolé aussi au personnage d'Orchidée.
Youssef HD.
ouais, voilà. Et qui était celle sur laquelle Marc avait flashé dès le premier épisode, et puis finalement qui s'était fait éliminer dès le début, mais qui revient à la fin de la saison. Mais tu vois, j'avais oublié un petit peu ce passage-là ou ce revirement-là.
Peut-être
un peu faiblard, mais par contre, oui, je me souviens quand même de la scène du mariage et je me souviens d'avoir beaucoup rigolé à ce moment-là.
Ah, mais c'est la façon dont ils se parlent tous les deux. Donc, Orchidée qui dit oh, Marc, mon salaud, enfin, je sais pas exactement comment il le dit et tout. Il s'insulte à moitié. Et je trouvais ça tellement drôle. J'aime bien en fait la façon dont la fin est amenée. Alors, déjà, j'étais assez surpris effectivement qu'il y ait le retour d'Orchidée. Je pensais vraiment pas que ça allait être sur ce personnage-là que ça allait revenir. En revanche, j'aime bien l'évolution du personnage d'Anne. Donc jouée par Anna Girardot, qui est donc la fille normale, classique, gentille, un peu intelligente plutôt quand même.
Oui, elle pour le coup, oui.
Et qui du coup, Marc ne comprend pas la moitié de ce qu'elle dit. Alors c'est pas des choses absolument incroyables, mais bon, comme il est un petit peu bête. Et tu vois que petit à petit, en fait, elle prend du caractère et elle l'envoie chier tout ça. Et je trouve ça vachement vachement bien justement de la voir évoluer. Et c'est d'autant mieux qu'on la retrouve en plus dans le flambeau et que Marc la déteste toujours autant.
Oui.
Ça nous fait du...
Oui.
Vas-y.
C'est ça qui est drôle. Non, mais je veux dire, c'est ça qui est drôle. Encore une fois, on parle du comique de répétition, mais tu te dis, il va s'arrêter à un moment donné, d'autant plus que donc ils se rapprochent, ils se mettent ensemble à un moment donné. Et non, malgré ça, ça continue.
C'est exactement. Ça qui est...
Comme tu dis, il tire la corde jusqu'au bout, y compris dans la saison 2. Et ça, c'est assez fort.
Eh ben, ça nous fait une superbe transition pour parler du flambeau, parce qu'effectivement, il y a plusieurs personnages en fait, de la flamme que l'on retrouve dans le flambeau, à commencer évidemment par Marc. Et en parlant de Marc, on a justement eu la chance de pouvoir discuter un petit peu avec Jonathan Cohen, qui nous a parlé de la production du flambeau.
Bonjour et bienvenue Jonathan Cohen.
Merci, bonjour.
Merci pour cette interview. On va parler du flambeau qui sort le 23 mai sur Canal+, c'est ça ?
Absolument.
Alors, est-ce que c'est... comment on l'a défini, cette deuxième saison ? Est-ce que c'est justement une suite ou c'est totalement un épisode à part ?
Ben, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que c'est et une suite parce qu'on reprend effectivement une bonne partie du casting de la saison 1 et en même temps, c'est totalement un autre jeu, une autre ambiance... parce qu'on est plus dans un jeu d'aventure, donc ça devient fatalement une autre série.
Et justement, comment elle est venue l'idée de parodier, de carrément pasticher Koh-Lanta après avoir parodié Le Bachelor ?
Eh ben, en fait, elle est venue bien tard, cette idée, dans le processus d'écriture, parce qu'en fait, on était parti sur une bachelorette, on voulait faire une saison 2 avec une bachelorette et des prétendants, et puis on avait du mal à le développer parce qu'on trouvait que c'était très redondant par rapport à la saison 1, et on galérait, donc on a développé ça pendant 6 mois, et puis après j'ai engagé d'autres auteurs pour venir nous prêter main forte, et un des auteurs, qui s'appelle David Cavaglioni, a dit « Ouais, c'est bien, mais ce serait peut-être quand même mieux de faire une série d'aventures », et nous on y avait pensé, mais on se l'était pas permis, parce qu'on était parti sur cette série, sur la bachelorette, et d'un coup, j'ai dit, mais c'est quoi, t'as raison. En vrai, on est parti sur cette idée de jeu d'aventure, bah là, les idées ont fusé très très vite, et on a mis 6 mois, un peu moins de 6 mois pour l'écrire, on va dire.
Parce que la première saison, si je me trompe pas, c'était adapté de Burning Love.
Absolument. Absolument.
La deuxième saison, c'est parti totalement de zéro, quoi.
C'est parti totalement de zéro. On avait un peu quand même le background de la saison 1, c'est-à-dire avec les personnages. Donc, on avait les personnalités, on va dire, une partie des personnalités qui revenaient. Donc, on savait comment les faire parler et les faire agir et les faire être drôles. Et puis après, oui, pour la création des nouveaux personnages, oui, ça, c'était l'inconnu total, ouais, absolument.
Et justement, on va parler du casting. Donc, il y a effectivement pas mal d'anciens membres de la première saison qui reviennent. Donc, ça veut dire qu'il a fallu attendre de savoir qui pouvait être disponible ou qui avait envie de revenir pour écrire le scénario. Ou ça s'est un peu fait parallèle.
Non, ça s'est fait. Ça a été des choix, on va dire, spécialement d'écriture, dans le sens où on s'est dit, tiens, qui est pour quel personnage c'est intéressant de revenir dans ce contexte-là. Quel personnage on a envie de tirer le fil un peu plus loin parce qu'il y a matière à le tirer. Typiquement, il y avait Marina et Soraya, leur histoire d'amour un peu avortée parce que Soraya était morte. Donc, c'était intéressant de pouvoir aller au bout de cette histoire-là. Leïla Bekti avec Alexandra, parce qu'on s'est dit de remettre une folle totale, meurtrière, dans ce contexte-là, c'est intéressant. Anna Girardot, c'est mon ennemi pour rien, hein, mais on se disait que c'était intéressant aussi de la remettre là-dedans pour créer de l'antagonisme. Pareil pour Tony qui avait les problèmes de garde avec la garde de sa fille. On s'est dit tiens, c'est intéressant de mettre justement son ex-femme avec qui il est en guerre. Tout ça créait de l'histoire et du conflit, donc c'était intéressant pour la saison 2.
Et alors, comment ça s'est fait pour le casting des nouveaux? Parce qu'il y a quand même des grands noms encore, hein, Gérard Darmon, Kad Merad, Jonathan Lambert, etc. J'imagine que pour réunir tout le monde en même temps, c'est pas le plus évident.
Ah non, c'est pas le plus évident, croyez-moi. C'est un peu, il faut avoir les planètes qui s'alignent en vrai. Hein. Faut qu'ils soient dispo. En plus, on a eu que 6 mois pour l'écrire, donc ils ont pu lire des versions relativement tard. Et on a eu de la chance qu'ils soient, on va dire, dispo à ces dates-là pour pouvoir jouer le jeu, quoi. Mais ça, c'est vraiment de la chance. Et puis, il y a Yvick aussi, Mister V, Laura Felpin, Thomas Simeka, Sébastien Chassagne. Il y a plein de petits nouveaux aussi. Jérôme Commandeur, que j'avais vu avec qui j'ai tourné Astérix et Obélix. Et quand je l'ai vu, vu qu'on a joué ensemble, je me suis dit, il faut qu'il soit dans le flambeau, quoi. Donc, et en présentateur, il est parfait.
Et justement, il y a beaucoup d'impro aussi sur la deuxième saison, parce que ça part beaucoup en live.
Ouais, il y en a toujours autant, parce que c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, et puis c'est génial de pouvoir être tout le temps créatif. On avait, encore une fois, une bonne base écrite, qui était important pour nous de faire dire aux comédiens, parce que ça donne aussi le rythme, quand même, l'écriture. Hein. Le rythme de comédie, il est beaucoup dans l'écriture. Donc c'était important d'avoir toute notre écriture dite par les acteurs, et puis après on part en live, on a des idées qui nous viennent et on passe du temps à tirer les fils, quoi.
Et du coup la première saison elle est quand même devenue culte très vite, il y a eu un gros succès. Le public s'est emparé totalement de la Jean-Guille, des personnages, des répliques, etc. Est-ce que ça a mis une pression pour écrire la deuxième saison ou pas trop?
C'est pas tant une pression. On voulait, quoi qu'il arrive, surprendre les gens. Moi, c'était mon but principal, c'était de justement pas leur redonner un ressucé de ce qu'ils avaient aimé, parce qu'on est toujours déçu en fait quand on dit « Ah oui, c'est pareil en vrai ». Donc il y avait cette volonté de les surprendre, de leur donner beaucoup plus d'histoires qu'il y en avait. Et puis surtout, c'était l'émission d'aventure, elle est propice à plus d'histoires et à tirer des fils par personnage. Mais on voulait leur donner le même ADN, c'est-à-dire, c'est pas une autre série totale, c'est le même humour, c'est les mêmes blagues, c'est notre manière de faire rire. Donc, mais tout en essayant quand même de les surprendre, voilà, et de les peut-être un peu plus les toucher aussi.
Et alors il y a eu le Bachelor, là c'est Koh-Lanta. Est-ce qu'il y a une autre émission que vous aimeriez parodier?
Pas pour l'instant non. J'ai pas d'idée pour l'instant de ce qui pourrait être éventuellement encore parodiable. Après ça va, c'est pas les émissions qui manquent, mais c'est tellement de travail en vrai. D'écrire de la pure comédie, ça se fait pas comme ça. C'est un exercice qui demande beaucoup, parce que il faut être en même temps, il faut être très précis, quoi. Et puis il faut se challenger. Ça demande à tous les niveaux, hein, que ce soit en écriture, même sur le tournage, et surtout au montage, parce que c'est des milliers d'heures. Derrière un écran avec les monteurs, pour trouver les bons timings, pour toujours avoir un rythme très soutenu et en même temps, c'est un gros travail. Et même au mixage, là je vois ce que je me prends dans la gueule au mixage, là, ça demande d'être très précis, et voilà, donc en vrai, Là, j'ai envie de souffler.
Oui, j'imagine. Est-ce que ça veut dire que vous avez tourné avec des réalisateurs de télé-réalité ou des gens qui connaissent bien ce milieu-là ?
Non. On a... Genre, en fait, ça aurait été une très bonne idée, mais j'ai pas été au bout de cette idée-là. Mais non, j'ai pris des. Par contre, j'ai pris une autre équipe. Et l'ambition était la même, c'est-à-dire il faut qu'on croie à cette émission, il faut qu'on ait le même type de cadre, on a moins de lumière, on est beaucoup plus à la lumière naturelle, même on est quasiment 100% à la lumière naturelle dans cette émission, à part les cérémonies des flambeaux électriques. Nous, notre but, c'est de la direction artistique, elle est de coller au maximum à l'émission parodiée.
Donc, fallait la connaître aussi.
Fallait la connaître, mais les codes sont pas très, très compliqués, en fait, à parodier, en vrai, vu que c'est assez, il y a un système, quand même, de narration. Donc, en vrai, il suffit effectivement de regarder quelques-unes et de se l'approprier.
Et est-ce qu'il y a eu des scènes que vous auriez voulu faire et que vous n'avez pas pu tourner sur cette saison ? Soit parce que vous vous êtes dit, ah non, ça va trop loin, ou alors on n'a pas les moyens, ou il y a eu un blocage quelque part ?
On s'est pas tant privé que ça, en fait. Après, vous savez, dans le processus d'écriture, on propose des choses, on brainstorm ensemble, on est là, on se dit, tiens... Et quand on voit que c'est trop gratuit, soit ça... on teste les choses, et puis quand on voit que c'est trop gratuit, ça peut nous amuser sur le moment, ouais, mais ça nous sort de l'histoire, ça nous sort, donc ça jarte. On s'est jamais empêché de véritablement de quoi que ce soit, quoi.
Alors, ça veut dire, pour l'instant, les autres projets, pas en rapport avec une série La Flamme ou Le Flambeau.
Ouais, pour l'instant, juste on va souffler. On n'est pas à l'abri un jour d'en refaire une autre, hein, parce que c'est quand même très très plaisant à faire, même si ça demande beaucoup de travail. Mais faut pour l'instant se reposer, digérer un peu ça, voir si déjà la saison 2 marche, si elle plaît au public, parce qu'en vrai, il n'y a que ça qui compte. Nous, c'est après, effectivement, et on avait dit à Canal aussi, s'il y a un engouement sur la saison 1, alors il y aura une saison 2, et puis il y a eu un engouement, donc on a fait la saison 2. Si là, il y a un engouement sur la saison 2, bah, peut-être que ça nous donnera envie de faire la saison 3. Ça, tout dépend du public, en vrai, et de la réception.
Le public, d'ailleurs, il y a des avant-premières dans toute la France, je crois, qui ont été organisées cette fois-ci.
Ouais, moi, ouais, j'ai vu ça, ouais.
Et alors, les premières réactions ?
Ah bah nous, on en a fait une à Paris, là, il y a lundi, et c'était super. C'était super, à la moitié du public, c'était des abonnés, donc on les a vus réagir, on a vu qu'ils rigolaient quasiment tout le temps, et qu'en fait... la série marche et qui sont pas déçus, même ils sont surpris que ce soit au niveau ou même mieux, quoi. Donc ça, c'est cool. Non, c'est formidable parce que c'est vraiment les premiers publics de l'émission et j'espère que ça continuera comme ça.
Eh bien, merci Jonathan Cohen, c'était toujours un plaisir, même par téléphone. C'est terrible parce que maintenant, quand je lui parle, je pense à Marc. Je pense que c'est un personnage qui va rester associé. Il y avait Serge Le Mito, il y avait quand même plein de personnages qu'il a pu faire avant Jonathan Cohen. Mais là, vraiment, typiquement, quand je l'entendais me parler, bah, je pensais à Marc. J'avais envie de d'interagir avec Marc. Et donc, ça fait du bien parce que je me suis rendu compte à quel point j'attendais la deuxième saison,
mais oui,
de La Flamme.
Non, mais en fait, de rien, hein. Pour rebondir vite fait sur l'incarnation de Jonathan Cohen, ce que je trouve fou, c'est que, enfin, c'est terrible en même temps, et en même temps c'est incroyable, c'est il joue tellement bien l'idiot.
Ça lui va comme un gant.
Tu crois au personnage de manière assez incroyable, ce côté naïf et très premier degré. On en parlait déjà dans la première partie de l'émission, mais je ne sais plus. À la fin du premier épisode du Flambeau, il y a comment dire, Jérôme Commandeur, donc qui joue le nouveau présentateur, donc du Flambeau, puisqu'évidemment autre émission, autre présentateur. Il dit une victoire sans merci, donc il fait félicite l'équipe, et t'as donc Anne, évidemment, Anne. Qui dit merci et qui se fait engueuler par Marc, parce que Marc dit, mais non, mais enfin, t'es stupide, il a dit que c'était sans merci.
Il n'y avait pas de merci.
Voilà. C'est typiquement, tu vois, je parlais de l'humour sur les répliques, c'est débile, mais ça me fait mourir de rire. Alors, c'est quoi le Flambeau, justement ?
Eh ben, le Flambeau, c'est La Flamme transposée dans une nouvelle émission. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on n'est plus sur un pastiche d'émission de rencontre, on est sur un pastiche de Koh-Lanta. Et ça, tu parlais tout à l'heure de à quel point on y croit. Je pense que c'est pareil dans la saison 2. Alors, on a vu que les deux premiers épisodes, hein, pour l'instant. Mais on attend clairement de voir la suite. Parce que moi, qui suis aussi une très grande fan de Koh-Lanta, je trouve ça incroyable à quel point c'est très bien écrit
mais oui.
et très respectueux de tout ce qu'on a l'habitude de voir dans Koh-Lanta, quoi. Et on parlait de Vincent De Dienne tout à l'heure en très bon présentateur du Bachelor. Je trouve que Jérôme Commander fait aussi un excellent Denis Brogniart, quoi.
Oui.
Comme tu dis, c'est dans les détails, dans tout ce
mais
qu'il va
tout.
Faire, dans toutes les répliques, tout est là, tout
c'est,
est là.
Et je trouve que ça marche 10 fois plus. C'est ça qui est hallucinant. Déjà dans La Flamme, donc tu as ce côté, donc la cérémonie de la rose, les rencontres avec les prétendantes, les portraits, etc. Mais c'est, je trouve que c'est porté puissance 10 dans le flambeau, à savoir que tu retrouves le même montage, les mêmes plans, les plans de haut, tout ça, les accélérations au niveau des images, la façon de parler, en marchant aussi de Jérôme Commander qui rappelle un petit peu effectivement Denis Brogniart qui se balade à chaque fois dans la nature. La musique aussi, le côté pastiche est encore plus fort, et même les épreuves, j'étais halluciné de voir les épreuves, je me dis mais tu dirais vraiment des épreuves de Koh-Lanta, ça pourrait marcher.
C'est ça, je pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Clairement. Je me disais, ça va faire cheap un peu sur les épreuves.
Et
non,
du
ils
tout.
Ont fait des vraies épreuves de Koh-Lanta.
Et tu retrouves le côté grandiloquent avec la porte du destin. Ils trouvent des trucs, des façons de parler et tout, exagérées. Et ça marche encore mieux. Et de mettre ces personnages dans ce côté encore plus foutraque et en même temps encore plus réaliste, je trouve ça assez fort.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que on retrouve donc une partie du casting de La Flamme qui se retrouve sur cette île déserte. Donc Marc arrive, lui, et cette fois-ci, il est persuadé de revivre La Flamme, donc de retrouver des prétendantes, mais sur une île déserte. Et donc, il comprend pas qu'il est pas dans la bonne émission. Jérôme Commander, rien que la présentation avec Jérôme Commander, moi, m'a fait hurler de rire au départ, parce que là, je pense que c'était improvisé, mais quand il lui demande si Jérôme Commander il a mangé le présentateur parce qu'il a des problèmes de poids, et que tu sais très bien que Jérôme Commander fait ce genre de blague sans arrêt sur son propre poids, ça, je pense que ça a été balancé un petit peu comme ça, et c'est extrêmement drôle. Mais en tout cas, oui, il retrouve une partie du casting, notamment Anne, qu'il déteste toujours autant. Donc il y a une partie des prétendants de la première saison qui se retrouve sur l'île, et Tony Tonic. Et puis tu as une autre partie composée d'un nouveau casting, donc, notamment là aussi, les noms sont assez incroyables, Cadmerat, Gérard Darmon, Jérôme Commander, et Jonathan Lambert, tout ça, c'est assez fou, quoi. Donc à chaque fois, je me dis, mais comment ils font pour se réunir tous comme ça? Mais c'est assez, assez dingue, et heureusement, nos personnages préférés reviennent aussi dans cette saison-là, quoi. On dit pas quand, on dit pas comment, etc. Mais en tout cas, pour ceux qui attendent... En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça reprend, en tout cas dans le premier épisode, clairement le même comique que La Flamme. C'est-à-dire qu'ils ont senti ce qui avait marché la première fois, et ils arrivent à remettre ces running gags dans la deuxième saison. Donc forcément, ça refonctionne, parce que c'est la même chose, mais qui se passe sur une île déserte, quoi. Donc t'as tendance à rigoler, ça fait un petit peu blague privée pour ceux qui ont vu la première saison, mais je pense, faudrait demander à ceux qui regarderaient que la deuxième saison, voir si ça fonctionne comme ça, mais je pense que oui, parce que encore une fois, ce qui fonctionne, c'est Koh-Lanta moqué, en fait. C'est ça qui est fort.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Marc est moins mis en avant. Forcément, dans la parodie du Bachelor, il était vraiment au centre. C'était lui le prétendant, donc il fallait vraiment que toutes les interactions tournent vers son personnage. Et là, il est beaucoup moins présent. Il y a d'ailleurs beaucoup de scènes où il n'est pas là, y compris dans même le premier épisode. Ce que je trouve assez intéressant, parce que ça met en avant les autres personnages. Et comme d'habitude, tu as des personnages qui sont hyper truculents. Toujours, tu pensais à Soraya avec son cœur de singe, et là, dans le flambeau, ils te sortent l'enfant bulle. Mec qui vit avec une bulle complète et qui est au cœur, du coup, de l'intrigue de la première épreuve, qui est juste ridicule, parce que tu le vois venir dès le début, les conneries, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est qu'à chaque fois, c'est des personnages, tu te dis, mais oh là là là.
Ça pousse le curseur encore plus loin, parce que pour en revenir au personnage de Chataléré, elle se retrouve dans cette deuxième saison, et là où la première saison elle était pixelisée sur le bas du corps puisqu'elle n'avait pas de culotte, là elle est sur une île déserte, elle revient, elle n'a pas de haut non plus, donc elle est pixelisée aussi en haut, et d'ailleurs c'est aussi une très bonne vanne de Jérôme Commander qui lui dit là c'est tout à l'air, c'est-à-dire c'est plus que Chataléré, c'est tout à l'air.
Comment vous savez, c'est ma marque de vêtements. Quel vêtement? Et t'as aussi... Alors, il n'y a plus Valérie. Ça, c'est vraiment ce que je regrette le plus, qui était mon personnage chouchou. Et je trouve que ça aurait été parfait sur, sur le flambeau, mais bon, elle n'est plus là. Mais pour jouer le rôle de souffre-douleur, ils ont trouvé donc Laura Felpin qui joue le rôle de Annick, intermittente du spectacle. Je ne sais plus comment il la présente, mais en gros, bah, c'est une fille qui fait des bolasses dans la rue avec un sarouel. Ouais, voilà, donc, ouais. Donc, comme on pourrait en croiser dans certaines villes, et qui s'en prend, mais vraiment. Plein la gueule par tout le monde, alors qu'elle est super sympa, elle dit oui, aventure humaine, je suis là pour tous vous découvrir.
Voilà, elle est là pour la dynamique
c'est
de
ça.
Groupe. Elle.
Et tout le monde lui balance des scuds tout le temps, en disant mais c'est violent même par moments, elle se fait appeler sac à pisse, sac à crotte, des trucs comme ça qui viennent de nulle part. Et elle est toujours souriante pour autant, et je trouve ça vachement drôle.
Et moi, j'ai beaucoup aimé Kadmerad, le personnage. Alors, en fait, dans les portraits, j'aime beaucoup le personnage de Jonathan Lambert,
ah oui.
qui vient d'une secte.
C'est ça. Saint-Jean-de-Luz.
Enfin, lui, il considère que non, mais, mais son portrait est très drôle. Par contre, après, le personnage de Kadmerad, qui est donc le beauf, le vrai beauf, il pousse tellement loin dans la beaufrie que franchement, mais on est obligé de rire. C'est vraiment, ça lui va comme un gant là aussi. C'est stupide. Et franchement, et là aussi, ils fonctionnent bien ensemble parce que t'as Gérard Darmon qui fonctionne très bien et qui rigole à toutes les blagues de beauf.
En répétant toujours un truc, tu vois. Il fait hé. Il répète toujours le dernier mot.
Michon.
C'est Alice. Hé. Il y a encore des personnages. Bah, tu vois le personnage de Jonathan Lambert, t'en parlais. Donc, l'homme qui vient de la secte, du coup. Le portrait est très très drôle. Après, je trouve que
après, ça,
ça manque d'ampleur. Et il y a aussi le complotiste qui je trouve un ressort humoristique assez assez facile là encore, et qui j'espère que ça se creuse un peu plus durant la série, parce que j'ai peur que ce soit encore un peu trop gimmick par rapport au reste. Après, on peut être surpris encore une fois. On ne sait pas ce que la suite du flambeau nous réserve.
On a vu que le début, et en tout cas on a très très envie de voir la suite. Moi je sais que j'attends justement, je suis un peu sur la réserve. Toi tu disais que ça te plaisait, moi le fait que Marc ne soit plus au cœur du truc, ça m'a un peu gênée, tu vois, à partir du deuxième épisode.
Ah ouais,
je me dis c'est quand même lui qui me fait rire. Et qui a c'est vraiment sa stupidité et son personnage qui me fait rire, donc j'espère qu'il va revenir un peu au cœur du truc, mais je pense que oui. Mais dans le deuxième épisode, il a un moment avec Docteur Juif, encore une fois, où franchement là on retrouve exactement ce qu'on a aimé dans la première saison, et ça fait rire autant que la première saison.
Affaire à suivre, c'est donc Le Flambeau, la suite de La Flamme. Et c'est tout pour cet épisode de votre podcast dédié aux séries télé. Merci beaucoup Anaïs de m'avoir accompagné. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis bien sûr, vous pouvez nous lire aussi sur West France. Salut à tous.
Salut.
Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.